vous ait pas tué. Ce qui vous tue pas vous fortifie, n'est-ce pas? Comment dire en anglais? Donc, il s'agit ici de la réunion ICANN ou de Mamadjé, l'un ou l'autre. Donc, je vais faire apparaître ma présentation. Alors, quelques petits rappels pour la journée d'aujourd'hui. Nous ne finirons pas à 9 heures, non. Donc, à 9 heures, nous allons aller de l'autre côté, à Hollett, la salle Hollett, où nous aurons un petit peu une réunion de conclusion de la semaine. C'est une réunion qui est obligatoire, donc on ira ensemble dans cette salle. Et à 11 heures, je vous le dis maintenant parce que je sais qu'après les intervenants vont commencer à parler, donc à 11 heures, dans le salon principal, nous allons parler de la communication et de la des capacités. Nous parlerons de nos équipes régionales, donc un bon moyen d'avoir l'avis les uns des autres, les perspectives des uns des autres. Ensuite, il y aura le forum public. J'espère que vous y serez présents. Je vous le dis pour les nouveaux. C'est l'occasion de participer à une réunion du conseil d'administration. La communauté aide à définir les thèmes. Le conseil d'administration, lui, a choisi la transition de l'IANA comme sujet principal, mais il y a d'autres sujets qui seront sélectionnés par la communauté. C'est une réunion qui dure 5h30, donc elle est très longue, mais une fois que vous y êtes, que vous verrez l'ordre du jour, vous pourrez choisir quels sont les moments où vous souhaitez être investi et participer, et choisir donc de vous concentrer sur certains des thèmes. Mais j'insiste pour que vous veniez à un moment ou à un autre, que vous participiez, parce que ce n'est pas très souvent que nous avons cette opportunité, hein. À peu près 3 fois par an. J'enverrai des informations sur la réunion que nous aurons. Nous en parlerons à Hollett. Alors, c'est un départ un petit peu laborieux ce matin. Bonjour à tous, je m'appelle Lars Lehmann, je suis un des responsables du comité consultatif sur la racine. Je ne vous envie pas parce que vous vous levez tous les matins pour être ici à 7 heures, alors que moi, je dors en général le matin. Donc, je suis très honorée d'être ici présent, donc je suis responsable du RSSAC et j'aimerais vous présenter un petit peu notre comité et notre place dans l'écosystème de l'Internet. Mais combien de temps est-ce que j'ai, Janice? 15-20 minutes à peu près. Ah, très bien. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes un comité consultatif qui, comme la plupart des autres comités consultatifs, en fait, a la tâche de donner des conseils au conseil d'administration. Et donc, l'ampleur de notre travail est relativement limitée puisque nous parlons là uniquement des serveurs racines. Donc, il y a 12 organisations qui s'occupent des serveurs racines et du processus qui génère et transfère la zone racine au serveur racine. Donc, il y a IANA, les fonctions de l'IANA, la partie IANA d'ICANN, qui s'occupe de la tâche administrative de réception des demandes pour les changeants à la zone racine, qui valide et qui s'assure que tout va bien et qui propose des modifications actuellement autorisées par le NTIA, donc le département du commerce des États-Unis, qui en fait met son tampon d'approbation sur ce qui se passe. Et ceci est envoyé au gestionnaire de serveurs racine. Et ensuite, il y a intégration au système de zone racine. Alors, j'aimerais mentionner que je travaille pour un des opérateurs de serveurracine.com Suède, donc avec la racine I, de lettre I. Et je travaille avec eux depuis 1992. Donc, avant même que la société ne soit fondée, donc depuis 1992, donc ça fait longtemps, hein. Ça fait un peu peur parfois. Donc, le RSSAC étant donné notre place en tant que partie prenante et notre travail opérationnel, en fait, nous sommes en train d'être réorganisés. Donc, ce que je vous dis, c'est ce qui s'est passé par le passé, mais notre structure, en fait, est en train d'être modifiée. Nous avons des experts DNSSEC, des gens du CCTLD, des GTLD et d'autres personnes qui nous viennent des registres Internet régionaux pour tout ce qui est des adresses et puis d'autres experts en sécurité. Donc vraiment un mélange de différentes personnes. Dans la hiérarchie d'ICANN, nous sommes ici, donc nous sommes un groupe, un comité consultatif par rapport au conseil d'administration. Alors, ça ne marche pas. C'est bon maintenant. Alors, que faisons-nous? Nous donnons des conseils pour nous assurer que toutes les demandes DNS obtiennent une réponse aussi rapidement et efficacement que possible. Avec donc les informations les plus récentes qui soient disponibles, qui sont donc fournies par Yana et VeriSign. Nous communiquons vers l'extérieur, vers la communauté, la façon dont le système fonctionne. Nous avons des liaisons auprès du NOMCOM et du conseil d'administration, qui sont en fait nommés par le RSAC. Ce sont des membres qui n'ont pas le droit de vote. Et nous fournissons une expertise DNS auprès du conseil d'administration, au personnel et à la communauté en général, aux autres parties prenantes, aux autres organisations de soutien. Ce que nous avons fait par le passé, donc reconnaissance sur le DNSSEC, IPv6, nous avons fait une étude avant donc le programme de nouveau GTLD et nous allons à l'avenir publier des documents sur les attentes en termes de services, à quoi devons-nous nous attendre de la part des opérateurs de serveurs racines. Et donc, j'en parlerai par la suite dans ma présentation. Ce que nous ne faisons pas, donc ce dans quoi nous ne nous impliquons pas. Nous ne définissons pas ce que vont faire les opérateurs de serveurs racines. Nous sommes un groupe consultatif, d'accord? Donc, le RSSAC reçoit les opinions des opérateurs de serveurs racines pour pouvoir former des conseils, mais nous ne pouvons pas leur dire quoi faire. Mais étant donné que ces opérateurs sont impliqués dans le service de génération, donc, de conseils, nous espérons, enfin l'idée c'est que ils sont prêts à accepter ce que nous leur recommandons. Alors, même chose pour ICANN, nous ne disons pas à ICANN quoi faire, nous faisons des recommandations qui ne sont pas obligatoires. Donc le conseil d'administration n'est pas forcé de suivre nos recommandations. Nous produisons des recommandations et ils peuvent les prendre en considération, les envisager et éventuellement les mettre en application. En termes de contenu, nous n'établissons pas de politique sur le contenu de la zone racine. Peu importe quelles sont les règles d'intégration dans la zone racine. Ça, ce n'est pas quelque chose qui nous concerne. En termes des opérations du serveur racine, il y a une certaine diversité d'opérations. Il y a plusieurs choses qui sont faites dans le cadre du service d'un opérateur de registre. Ils peuvent également être... ils s'occupent de du serveur racine. Ensuite, ils peuvent être registres. Ils peuvent être une université. Donc, ils fournissent d'autres services. Donc, la question de la racine, c'est vraiment quelque chose de limité. Alors, en termes des opérateurs de serveurs racine, si vous regardez donc cette carte, vous pouvez accéder à des informations sur l'ensemble des opérateurs de serveurs racines. www.root-servers.org. Donc ça, c'est la page qui vous montre les différents opérateurs. En fait, le lieu des serveurs qui donc fournissent des services racines. Il y a 10-12 ans, je vous aurais dit qu'il y a 13 serveurs dans le monde. Ce n'est plus le cas. Je pense que nous en sommes à environ 250 à 300 serveurs maintenant. Comme vous le voyez, ils sont distribués sur toute la planète. Il y a encore de la place pour que les choses s'améliorent, mais bon, on n'en est plus quand même à 13 machines. Alors, le processus de transition de l'IANA qui vient d'être annoncé, donc par rapport à ce sujet, nous attendons à y être impliqués. Et c'est en fait quelque chose qui existe depuis la création d'ICANN. Moi, j'étais présent lors de la première rencontre d'ICANN à Singapour en 99. Et c'est quelque chose qui existait déjà. On a toujours espéré que ceci se produise un jour et nous voyons maintenant les premières étapes dans ce sens. Le RSSAC, en tant que comité consultatif, devrait participer au processus avec, bien sûr, la coopération des autres parties prenantes pour bien prendre en considération l'avenir, la création de l'avenir en ce qui nous concerne. Et bien sûr, en ce qui nous concerne, nous allons travailler à la sécurité, la stabilité et la résilience de l'Internet. C'est vraiment ce sur quoi nous allons focaliser notre travail. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de travailler à notre structure. Nous sommes en train de créer un modèle à deux couches, pour ainsi dire. Nous sommes en train de créer un comité exécutif. D'ailleurs, il existe déjà. Nous avons déjà eu deux réunions avec ce comité. Nous allons créer un arrondissement avec des personnes qui sont des experts. Ce comité exécutif est constitué des 12 organisations de serveurs racines avec des liaisons vers les différents groupes. Alors, peut-être que le numéro 12 peut vous surprendre parce qu'il existe 13 adresses IP, mais il y en a deux qui, en fait, sont gérées par la même organisation. Donc, voilà pourquoi on n'a que 12 membres. Alors, le comité exécutif va créer le processus initial, les processus et les procédures initiaux. Nous en sommes déjà à une étape avancée de notre travail. Là-dessus, nous avons des documents que nous avons écrits. Et donc, cela nous permettra de faire avancer notre travail. Nous devrions publier ces documents fin avril. Ensuite, nous continuerons de travailler à la création de l'ensemble de l'organisation et nous devrions avoir terminé d'ici le 1er juin. Le comité exécutif sélectionnera les différents points de travail avec nos différents arrondissements. Et nous travaillerons avec nos deux coprésidents. Les deux coprésidents actuels sont Jun Murai, de White Project au Japon, et moi-même, donc. Malheureusement, Jun n'a pas pu venir ici à Singapour. Nous avons des liaisons donc vers le conseil et vers le NAMCOM. Et pour ce qui est de liaisons qui viennent vers nous, donc qui nous communiquent à nous, il y a donc des représentants de l'AYANA. Alors attendez que je me souvienne bien. Il s'occupe de la partie administrative de la zone racine, de NTIA. Ensuite, il y a quelqu'un qui s'occupe de la zone racine, de Verisign. Et puis, le conseil d'architecture de l'Internet, donc le IAB, une personne du SSAC. Et nous en sommes à une étape préliminaire pour ce qui est de la liaison avec le GAC, qui devrait se mettre en place bientôt. Pour ce qui est des arrondissements, les arrondissements sont composés de différents experts sur le protocole DNS. Comment est-ce que fonctionne le DNS? Donc les opérations du DNS, donc des personnes qui travaillent dans l'installation des services, que ce soit du côté fournisseur ou du côté consommateur, donc résolution, donc tout ce qui est sécurité, etc. Donc nous allons former un groupe avec divers experts qui nous permettra ensuite de travailler des sous-groupes experts en certains sujets. Ensuite, nous aurons un document préliminaire qui sera généré et l'objectif sera d'obtenir un consensus sur ce document. Ensuite, ce document sera renvoyé au comité exécutif pour qu'il soit vérifié et publié. Le statut actuel, c'est que nous sommes en train d'élaborer nos procédures opérationnelles. Nous avons d'ailleurs eu des élections cette semaine pour faire avancer le travail. Nous avons des documents qui seront distribués et sur lesquels nous prendrons des décisions d'ici le mois d'avril. Voilà, ça c'est bon, on en a parlé. Ensuite, étape suivante pour nous, donc terminer le document des procédures initiales, désigner les arrondissements. Nous avons déjà une petite idée là-dessus. Nous savons quelles sont les personnes auxquelles nous souhaitons nous adresser, que nous souhaitons inviter avant la connexion RSSAC était un petit peu lâche, pour ainsi dire, n'était pas très serrée. Donc, nous souhaitons donc inviter d'autres personnes qui aient des expertises précises. Et puis, il y a certaines personnes qui vont vouloir sortir de notre groupe. Il y a deux documents que nous avons qui sont prêts à être publiés de l'ancien RSSAC. Et nous allons également travailler à l'entretien de meilleures relations avec d'autres organes d'ICANN. Donc, nous pouvons travailler sur la question de la sélection des problèmes relatifs aux services racines. Et puis, le but est également d'identifier les problèmes de manière précoce. Les deux documents sur lesquels nous travaillons sont ce à quoi on doit s'attendre en termes de performance et de responsabilité du serveur racine, ce qui est parallèle à un document que le conseil d'administration est en train d'écrire. Donc, il est clair qu'il faut travailler à la fiabilité et à la performance, c'est clair. Mais il y a aussi le côté des attentes, non seulement les chiffres, mais aussi la réaction. Lorsque vous envoyez une demande, à quoi doit-on s'attendre? Donc, qu'est-ce qu'on peut prévoir de la part du serveur racine? Et ça, c'est le BIA qui s'en occupe, le IAB, pardon, qui s'en occupe. Ce sont des documents qui seront publiés de manière variée. Il y a donc la série standard de normes. Et puis, il y a aussi la publication par le canal ICANN. Mais bien sûr, il y a des références entre les deux, des liens entre les deux documents. Donc, c'est là-dessus que nous travaillons. Alors, deuxième document, avec les nouveaux GTLD, nous allons voir des taux de changement complètement différents parce que au niveau des serveurs, parce que nous ajoutons des noms de domaines toutes les semaines. Avant, on parlait d'un nom de domaine par an. Maintenant, on en est à 5 à 15 noms par semaine. Donc vraiment, le changement est énorme. Donc nous souhaitons nous assurer qu'il y ait des moyens de mesurer le système de serveurs racines pour pouvoir un petit peu surveiller ce qui se passe, voir s'il y a des signes de stress, de pression plutôt, pour pouvoir adapter d'une part les processus d'ajout des GTD ou peut-être plutôt des changements du serveur. Donc, comme je le mentionnais, 250 à 300 serveurs qui sont répartis dans 12 organisations, eh bien, ils doivent être mis à jour, ils doivent être remplacés. Donc, cela veut dire énormément de machines, énormément de choses à mettre à jour. Donc, il nous faut avoir vraiment une vue à long terme, une perspective à long terme pour que les choses fonctionnent bien et que tout soit opérationnel. Voilà un petit peu ce que je souhaitais dire. C'est tout ce que vous faites ? Oui, c'est tout ce qu'on fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Please remember to state your name.
Veuillez s'il vous plaît dire votre nom. Andrea Laminard de Swaziland. Je voulais connaître les avantages pour un pays d'être hôte de ce type de serveur racine. Et autre question, on a l'impression qu'il y a des rôles différents et très spécifiques entre les opérateurs de serveurs racines. En quoi ces rôles sont-ils différents ? Lars au micro, oui, par rapport à la première question, vous vous apercevrez que ce n'est pas si compliqué finalement. Par rapport aux avantages pour un pays, on n'installe pas en fait un serveur de racine dans un pays, et en d'autres termes, je dirais quels sont les avantages d'installer un serveur racine dans un parti tiers. Les deux avantages essentiels, c'est que vous obtenez une réponse plus rapide. Il ne faut pas que vous traversiez la planète pour envoyer votre demande et que cette demande soit renvoyée. Et ensuite, s'il y a des interruptions dans le service Internet dans votre zone, et il y a eu des interruptions, par exemple, en cas de tremblement de terre, de séisme ou de catastrophe naturelle lorsque il y a ce type de cas de force majeure, alors il y a interruption du service et vous pouvez continuer à offrir un service au domaine de premier niveau. Si vos domaines de premier niveau locaux fonctionnent encore, alors vous pouvez utiliser le système Internet pour les domaines locaux dans votre zone. Et ça, c'est un grand avantage. Autre avantage, les serveurs racines répondent non seulement aux demandes légitimes. Si vous demandez un nom de domaine qui contient un nom de domaine non identifié, vous allez obtenir une réponse. Le système va s'en souvenir et la prochaine fois, vous allez obtenir le même nom de domaine et vous donner la même réponse. Il s'en souviendra. Mais pour les noms de domaine qui n'existent pas, les gens tapent leur demande sur le clavier, alors on obtient la réponse, il n'existe pas. Et là, d'ailleurs, c'est le gros des demandes qu'on reçoit parce que les noms de domaine qui existent sont rapidement appris du côté de nos clients. Deuxième aspect de votre question, si vous regardez du côté des opérateurs de serveurs racines, ils n'ont pas un rôle spécifique, ils jouent le même rôle que les autres, bien entendu. Ils utilisent leur propre système, plateforme, etc. Mais ils travaillent pour le reste exactement comme les autres. Le seul rôle spécifique qu'ils ont, c'est qu'ils ont un contrat qui stipule qu'ils doivent être le parti qui s'occupe de la zone racine. Ils reçoivent cette demande de l'IANA et du NDIA pour faire ce changement dans la zone racine. Donc, ils s'engagent à faire cela. Ils s'occupe des serveurs, mais il ne s'agit pas d'un rôle spécifique. Il y a un certain type d'opérateur de serveur qui s'occupe de cette zone racine. Mais ensuite, ils remplissent les fonctions normales de service DNS. Et donc, on obtient nos données à partir de cela. Bonjour, je m'appelle Carol Douglas de Trinité et Tobago. Lars, merci beaucoup de cette excellente présentation. J'aimerais ajouter quelque chose. Quelle est la zone racine? Pour une personne qui n'est pas technique, donc je parle en mon nom, il serait très intéressant de savoir ce qu'est la zone racine. Il s'agit de serveurs critiques qui soutiennent l'Internet, c'est bien ça. À Trinité, ça a été très difficile d'expliquer à mon chef comment fonctionne l'Internet. J'ai vu qu'il y avait 3 serveurs racines dont dépend l'Internet, mais ça a été très difficile pour moi de lui expliquer. Donc, pourriez-vous simplement et rapidement expliquer ce qu'est la zone racine, comment les GTLD et autres vont être intégrés là-dedans? Merci. Lars au micro, très bonne question. J'aurais dû commencer par là, en fait. Veuillez m'en excuser. La zone racine, c'est les 8 bits. La pointe de la pyramide. Si vous êtes un client et vous ne connaissez encore rien parce que vous venez de lancer votre système et vous voulez trouver des données ou des archives DNS. Donc le nom d'hôte, www. etc. adresse. Et vous voulez retrouver cette cartographie. D'abord, il faut commencer en haut du système parce que vous ne connaissez rien. Donc vous voulez obtenir ces informations. Donc vous allez envoyer au serveur cette question. Qu'est-ce que l'adresse IP de cette adresse www, etc. Le serveur racine va vous dire « je ne sais pas, mais je peux voir que ce nom que vous avez introduit est là. » Donc, allez demander au serveur de la Suède, si l'adresse a à voir avec la Suède, cette information. Le client va ensuite faire la même question aux opérateurs en Suède. Quelle est l'adresse IP de www, etc. Ils vont vous répondre, nous ne savons pas, il y a un sous-domaine, nous l'avons délégué. Mais il vous faut parler aux opérateurs de serveurs. Et là encore, troisième fois, même demande qui va être envoyée. Et cette fois, on s'adresse au bon service. Et ils disent, oui, l'adresse IP de ça, c'est 192, etc. Donc, le client va apprendre cela et s'en souvenir pour une période spécifique. La période est spécifiée dans la réponse que vous obtenez. Vous pouvez vous en souvenir pendant tant de secondes. Le serveur racine, dans ce système, contenait la liste des noms de domaine de premier niveau et la liste des serveurs opérés pour chacun de ces domaines de premier niveau. Et ça, ça représente un petit nombre de données. Je n'ai pas vérifié récemment, mais on pouvait intégrer tous les fichiers de la zone racine 10 fois. Vous avez un petit peu une idée du volume. C'est très petit. Mais beaucoup de gens posent des questions, font des demandes. Donc, il y a une liste de domaines de premier niveau. Et pour chacun d'entre eux, il y a une liste de serveurs qui opèrent pour ces domaines. Lorsque vous créez un nouveau TLD, vous vous adressez à l'IANA et vous leur demandez de l'intégrer dans la zone racine. Il y a une petite base de données. Ils ajoutent le nom du nouveau TLD et l'envoient au NTIA disent, voilà, on veut faire ce changement, le NTIA donne son feu vert, et VeriSign l'introduit dans l'ordinateur, c'est copié par tous les opérateurs de serveurs racines. Et ça commence à fonctionner. Il n'y a pas de différence technique entre un CCTLD et un GTLD. Donc, en tant qu'opérateur de serveurs racines, peu m'importe, je ne sais pas s'il s'agit d'un CCTLD ou d'un GTLD. S'il y a deux caractères, c'est un CCTLD. S'il y en a plus, c'est un GTLD. Mais c'est la seule manière de le savoir. L'information dans la zone racine est plus ou moins semblable. Du point de vue du contenu technique, il s'agit de la même chose. Janice, au micro. Je m'attendais à voir un petit peu la fumée sortir de son cerveau. Je vois qu'il y a une autre question. Il y en a plusieurs, en fait. Je ne sais pas quoi faire. Allez-y, monsieur. Je suis Brian Bailey. Pourriez-vous nous parler de la possibilité de l'expansion du nombre de la zone racine de 30 à 26 et de la distribution géographique pour faire face à cette croissance de la capacité du système ? Lars au micro. Oui, en fait, il s'agit de deux questions pour moi, j'ai l'impression, que vous posez. Oui, plus de lettres qui pourraient nous montrer qu'il y a plus d'administrations qui s'occupent des serveurs racines. Nous administrons environ 50 opérateurs et on a des serveurs partout, depuis l'Australie jusqu'à Tokyo, toute l'Europe, l'Afrique, Amérique du Nord, du Sud, etc. Si vous allez créer une autre lettre, il va falloir réfléchir aux avantages que cela implique. Parce que les opérateurs de serveurs racines ne contrôlent rien concernant les données. On publie les données telles que nous les recevons et on ne peut pas les modifier. Parce qu'aujourd'hui, on signe le DNSSEC. Pourquoi ? Justement pour qu'il soit impossible de modifier les données. Cela étant dit, il est impossible de créer plus de lettres. Il y a un certain nombre d'années, j'aurais répondu non à cette question parce que on pourrait rassembler tous les opérateurs dans un package DNS et ça fait partie de la première demande lorsque le client demande quelle est la liste actuelle des serveurs qui existent. Il obtient une liste et en fonction des normes DNS, tout cela doit être inclus dans 105, dans un package de 105. Donc, comment inclure 13 serveurs dans ce package ou paquet? Donc, comment les inclure? Oui, effectivement, vous pouvez en créer d'autres, quelques autres, mais vous allez commencer à rencontrer à nouveau ce problème de la taille du paquet. Vous ne pouvez pas en créer trop. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 10. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à 10, mais 1, 2 de plus. Mais là encore, très rapidement, vous allez rencontrer ce même genre de problème. Donc, il faut décider de la personne qui va s'occuper de cela. Et de toute façon, il va falloir que vous en occupiez à l'avenir parce qu'il va falloir créer un plan qui va marcher. En créant d'autres, là encore, on n'a pas suffisamment de place parce qu'on a des serveurs partout dans le monde et les opérateurs de serveurs racines veulent couvrir d'autres endroits. Donc, si vous pensez qu'il serait bon pour vous d'avoir un serveur racine près de vous et vous n'en avez pas, n'hésitez pas à venir nous voir. Rendez-vous sur cette page des serveurs racines, obtenez des informations, envoyez-nous un mail en nous disant, voilà, j'habite là, nous avons tel et tel problème, tel et tel désir. Comment pouvez-vous nous aider? Parce que nous avons une, nous sommes tout à fait disposés à vous aider et à coopérer. Janice au micro. Là, on va faire une pause, me semble-t-il. Fadi a quelques minutes pour vous saluer. Il a une journée chargée, donc on va le laisser parler. Fadi, soyez le bienvenu. Fadi au micro. Bonjour, heureux d'être ici. Excusez-moi de vous interrompre de cette manière. Comme d'habitude, nous avons une journée très chargée. Je crois qu'à 13h cet après-midi, nous allons parler de bonnes choses qui sont en train d'arriver à l'ICANN. Tout d'abord, soyez les bienvenus. Combien d'entre vous ont déjà été boursiers avant ? La moitié d'entre vous donc, ont déjà été boursiers. Le programme des boursiers, d'après moi, est l'un des jalons dans le travail de l'ICANN. On en parlait avec Janice, le nombre de boursiers qui continuent de participer à l'ICANN et continuent de contribuer à l'ICANN est tout à fait remarquable. C'est un programme qui, au fil des ans, lorsque je vois les programmes et les idées, je regarde les faits. Et on se pose la question de savoir si on continue à le soutenir. Et la dernière fois qu'on l'a fait, je lui ai dit, veuillez doubler la taille de ce programme, parce qu'il est tellement bon que... Et d'ailleurs, on l'a presque fait, on a presque doublé la taille du programme. Et je lui lance un défi, faisons la même chose pour l'année prochaine, parce que véritablement, ce programme, du point de vue des ressources, c'est la meilleure façon de dépenser l'argent de l'ICANN. Il n'en fait aucun doute, c'est très bon pour nous, c'est un bon investissement pour nous d'investir dans la communauté, dans vous, d'investir dans les connaissances. Comment réunir les gens de par le monde pour prendre des décisions sur la base du consensus? Les gouvernements rencontrent un certain nombre de défis aujourd'hui de par le monde. La plupart des statistiques montrent que le niveau de confiance dans nos modèles de gouvernance est l'un des niveaux les plus faibles jamais enregistrés. Donc, la plupart d'entre nous ne font pas confiance au modèle de gouvernement, ou de gouvernance plutôt. Et ça, c'est un taux déplorable dans les pays en développement, et ça, c'est regrettable. Et c'est un taux qui est faible également dans les pays développés. 70% des Nord-Américains ne font pas confiance dans le système de gouvernance. J'en viens maintenant aux pays en développement, et la situation est la même. Donc ici, à l'ICANN, avons-nous sommes-nous bien logés vis-à-vis de la gouvernance ou pas? C'est pas simplement une responsabilité vis-à-vis des chiffres et des nombres, c'est une responsabilité vis-à-vis du monde. L'Internet est une ressource extrêmement puissante. Et on s'est réunis depuis ces 15 dernières années entre gouvernements, communautés. La question est de savoir, est-ce qu'on a l'impression que cela marche? Pouvons-nous dire au monde que cela marche? Est-ce que le monde trouve que l'ICANN est une expérience réussie? Donc, il y a une réalité, il y a une perception des choses et il faut s'assurer que chaque jour, on avance sur ce modèle. Laissez-moi vous dire que votre participation en tant que boursier est la source de grand espoir pour moi de voir que les gens continuent de venir pour améliorer un modèle. Et pour vous, c'est un défi de devoir améliorer ce principe. Si vous voyez que les choses ne fonctionnent pas, dites-le. Il ne s'agit pas de votre gouvernement, il ne s'agit pas du modèle de gouvernance auquel vous êtes habitué. Il s'agit d'un espace où chacun d'entre vous a droit à voix au chapitre. Et hier, à minuit, J'étais d'ailleurs avec mon épouse en train de fêter son anniversaire. J'ai reçu une demande et j'ai dû revenir. C'est comme cela que ça fonctionne à l'ICANN et c'est très bien. Il n'y a aucun espace dans les modèles de gouvernement. En fait, il y en a très peu d'espaces de ce type où les décisions sont prises sur un pied d'égalité. Donc, veuillez aider ce modèle. La pire chose qui pourrait survenir ici à l'ICANN, c'est de devenir moins souple, que ce modèle ne soit plus dynamique, que ce modèle n'évolue pas, que nous soyons opposés au changement. Et lorsque je suis venue à l'ICANN, je vais l'admettre, il y avait beaucoup de barrières, beaucoup de choses ancrées. Le personnel et la communauté avaient une barrière qui les séparait. Et tout cela, je l'ai dit dès le premier jour. Il faut mettre fin à ces forteresses. Et vous savez que les oasis attirent les gens. Et c'est l'inverse d'une forteresse où on se défend, il y a des bunkers. Donc, je ne veux pas de forteresse. Nous voulons être un oasis pour les gouvernements. Nous voulons être un oasis de gouvernance. Et donc, il faut défendre ce modèle. Et dernier message, on a tendance à... J'ai grandi au Liban et on a tendance à étiqueter tout. Je suis musulman, je suis noir, je suis ceci, je suis cela. C'est incroyable le mal que l'on peut faire en étiquetant les choses, en étiquetant les gens. Nous sommes multipartites contre unilatéraux. C'est une perte de temps. On doit se mettre d'accord et convenir sur des principes, les principes d'inclusion, le principe d'une participation équitable, le principe du processus de prise de décision ascendant, reposant sur le consensus. Et si vous ne connaissez pas ces principes, n'hésitez pas à nous demander quels sont ces principes. C'est notre travail, c'est notre fonction. On peut être souple sur tout le reste, à l'exception de nos principes. Souple sur tout le reste. Modifiez tout le reste. Mais ne touchez pas aux principes de cette communauté. Défendez-les. Aidez-moi à défendre, aidez l'ICANN à défendre ces principes. Parce que les yeux du monde sont sur nous. Et je l'ai dit hier lors du showcase, hein, même les avocats experts juridiques nord-américains ne comprennent pas ce modèle et ne comprennent pas qu'une approche ait été différente. Nous sommes ambassadeurs de ce modèle, mais n'étiquetons pas les autres. Ne les jugeons pas en disant qu'ils ne sont pas multipartites. Ça ne sert à rien. Nous souhaitons une inclusion. Regardez ce qui se passe à l'ICANN. Tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas de droit d'entrée. Tout le monde peut être ici. Vous pouvez être ici. Si vous ne comprenez pas la langue, vous écoutez l'interprétation. C'est notre esprit. Et nous comptons sur vous pour le défendre. Ça n'est pas mon esprit à moi, ma philosophie à moi, celle de Janice. Ce sont nos principes. Donc, bonne chance. J'espère que ça a été une réunion intéressante pour vous. J'espère que vous allez pouvoir ramener dans votre communauté une nouvelle expérience qui va enrichir votre vie et la leur. Merci.
Merci beaucoup. Janice au micro, merci beaucoup. Bon courage pour ta semaine, Fadi. Nous avons 5 minutes qui nous restent avant que nos représentants du comité de nomination arrivent. Donc, s'il reste des questions pour Lars, n'hésitez pas. Alors, Raoul d'abord au micro. Ensuite, il y aura Valentina. Bonjour, je suis Raoul Sherman, je viens d'Inde. Ma question est la suivante. Est-ce que le NTIA, enfin le département du commerce, a approuvé l'amendement de l'augmentation des serveurs racines. Deuxième question. Est-ce que VeriSign a un contact avec NTIA? Est-ce que les opérateurs de serveurs racines ont ce contrat également avec le NTIA? Et dans ce cas, quelle est la responsabilité des opérateurs? Est-ce qu'il est avec ICANN ou est-ce qu'il est avec le NTIA? Parce qu'ils ont un contrat avec les deux. Pourquoi est-ce que VeriSign est le seul responsable de la mise à jour de serveurs racines? Il y a des concurrents qui sont disponibles, donc qui fixe ces critères? Est-ce qu'il serait possible de proposer qu'il y ait un autre type de mise à jour des serveurs racines? Alors, autre question. Janice au micro. Non. On ne peut pas poser toutes ces questions. On va s'arrêter là parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Lars au micro. Alors, j'essaie de me rappeler de la première question. Donc, c'était la question du NTIA. Le NTIA ne change pas les données. Ce qu'ils font, c'est qu'ils approuvent les changements qui sont proposés par l'IANA. Donc, l'IANA, en fait, s'occupe de toutes les approbations, de toutes les vérifications et définissent quels sont les changements qui sont possibles, qui peuvent être approuvés. Le NTIA approuve les changements avant que la zone soit distribuée à tous les opérateurs de serveurs. Donc, c'est quelque chose qui se produit avant que le gestionnaire fasse le changement. Et ensuite, c'est communiqué aux opérateurs. Donc, on ne peut pas faire sans le NTIA. Maintenant, ils ont indiqué qu'ils étaient prêts à se retirer. Mais bon, actuellement, voilà comment se font les choses. Alors, le contrat, oui, il y a un contrat avec le NTIA et VeriSign est le seul à l'avoir. Personne d'autre ne l'a, mais il y a plusieurs des opérateurs de serveurs racines qui ont fait des déclarations publiques par rapport à leurs services. Ils ont déclaré, voilà ce que nous faisons, comment nous le faisons et ce que nous promettons de faire. On peut trouver ceci en général sur des pages publiques. Je sais que pour iRoot, cela fait partie de notre page publique. Donc, si vous suivez notre lien, vous pouvez donc cliquer et trouver notre déclaration à nous, mais nous promettons aux utilisateurs de l'Internet, à notre communauté, en fait, nous sommes au service de cette communauté. C'est notre rôle et nous promettons que nous ferons tout notre possible pour publier des données justes, que nous les, au fur et à mesure que nous les recevrons de l'IANA, et donc dans des délais raisonnables. Ça, c'est notre promesse. Et puis, c'est également notre mécanisme de responsabilité. Si nous ne faisons pas les choses comme ça, eh bien, nous n'avons pas tenu notre promesse par rapport à la communauté. Et à ce moment-là, il nous faut prendre en considération des méthodes pour solutionner ce type de problème. Il y a besoin d'améliorer le problème de responsabilité. Il nous faudra définir un cadre qui permette d'améliorer la clarté des choses. Et donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Alors, je crois qu'il y avait une troisième question, mais je n'ai pas pris des notes suffisamment rapidement. Alors, je me souviens. Désolée, je ne me souviens pas, en fait. Je ne me souviens pas de votre question. Raoul, au micro. Ma troisième question, c'était en ce qui concerne des concurrents qui se sont adressés à ICANN ou au NTIA par rapport à VeriSign. Ou alors, est-ce que c'est simplement VeriSign qui reçoit le contrat régulièrement? Réponse au micro. Lars, oui, il y en a des concurrents de différents types qui souhaitent obtenir ce contrat. Maintenant, la racine A n'est pas la meilleure, etc., on peut faire circuler les lettres sur le service, sur le serveur. On pourrait avoir des photos à la place, d'accord? Simplement, nous avons choisi des lettres, c'est tout. Et non, il ne s'agit absolument pas d'un serveur spécial. Le fait que VeriSign gère ou ait ce rôle, c'est une question qui existe et qu'il faut poser au NTIA, mais cela revient au fait qu'ils étaient là il y a très très longtemps, lors de l'ancienne conception, et en fait leur travail a été exceptionnel du point de vue de l'ingénierie. Ça fonctionne. Ils ont vraiment des experts, des personnes qui sont excellentes dans leur travail. Donc, ils sont très, très bien. Alors, Raoul, une question de suivi. Janice au micro. Non. Lars au micro. Je suis prêt à répondre à vos questions à la fin, si vous souhaitez. Janice, oui, comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à contacter les intervenants après. Simplement, ce qui m'impressionne, je dois le dire, nous allons terminer cette séance, mais ce qui m'impressionne, c'est qu'on n'a jamais parlé du NTIA. Et donc, c'est vraiment quelque chose de fascinant parce que cette transition a créé énormément de conversations au sein d'ICANN, en ce qui concerne la gouvernance de l'Internet. Donc, pour ma part, j'aimerais remercier Lars parce que cela ne fait pas longtemps que vous venez à ces réunions. Et donc, c'est très intéressant de voir ce type de conversation très motivante. Donc, je suis très contente de vous avoir ici présent. Merci à tous ce matin. N'hésitez pas à me faire parvenir vos questions. Je les communiquerai à Lars le plus rapidement possible. Merci. Lars au micro. Merci de m'avoir accueilli parmi vous. J'aimerais répéter encore une fois, surtout n'hésitez pas à venir me voir, à vous adresser à nous, à mes collègues, aux membres du RSSAC. Nous sommes tout à fait prêts à vous parler. Je suis grand, mais je vous promets que je ne mords pas. Donc, merci encore une fois de m'avoir accueilli parmi vous. Janice au micro. Cheryl, est-ce que vous souhaitez maintenant venir prendre la parole? J'aimerais également inviter mon coprésident à venir avec nous. Pour ceux d'entre vous qui avaient déjà participé au programme des boursiers, vous savez de quoi je parle d'habitude. Donc, c'est le comité de nomination. Et donc, vous parlerai un petit peu de nous d'abord. Et ensuite, je demanderai à Janice d'afficher le site web parce que nous avons investi énormément de travail dans notre site web. Et je pense qu'il est, très utile. Nous l'avons énormément amélioré. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Cheryl Landon. Et je suis très honorée d'être la présidente du comité de nomination, du NOMCOM. La plupart des communautés de nomination, suivant la culture dans laquelle vous êtes, nécessitent un groupe de personnes qui prennent en considération différentes personnes pour les sélectionner, pour établir une liste de candidats à des postes. Donc ça, c'est le rôle typique d'un comité de nomination, selon ce qui est généralement proposé. On aime bien telle personne, on aime bien ce qu'elle a à proposer, on pense qu'elle s'intégrera bien au reste du groupe. Mais ce n'est pas le cas dans le NOMCOM d'ICANN. Le NOMCOM d'ICANN effectue une recherche, une sélection, un filtrage et ensuite nomme. Donc, à la fois, c'est un comité de nomination et un comité ou un organe qui choisit, qui désigne les gens. Donc, lorsque vous venez d'autres organismes, vous savez qu'il existe des opportunités. On ne les gaspille pas, les opportunités, quand on est boursier, n'est-ce pas? Alors, cette année, est courte, mais c'est quelque chose qui se produit tous les ans. Nous avons en fait l'opportunité de 2 sièges au Conseil d'ACAN. Pour chaque cycle, il y a 8 nouveaux membres qui sont désignés. Donc, on est dans une situation relativement importante. Hein. Il n'y a seulement 15 postes. Pensez un petit peu à cette opportunité énorme. Nous sommes également dans une situation où nous désignons les organisations de soutien. Je sais que vous savez ce que c'est, les organisations de soutien. Vous en avez beaucoup entendu parler. Je suis responsable des comités consultatifs également, auxquels je suis impliquée personnellement. Donc, je n'ai pas à vous dire, à vous définir ce que sont ces organisations et ces comités. Mais chaque organisation a une équipe de leadership ou un conseil. Et chaque année, nous nommons quelqu'un pour le CCNSO et pour la GNSO. Et donc, dans ces deux cas, ce que nous cherchons à faire du mieux de notre possible, c'est de trouver une personne qui ne pourrait pas obtenir un siège au sein du conseil en lui-même. Donc, en tant que membre du conseil d'admission de points EU, le CCTLD, dont nous sommes d'ailleurs administrateurs, parce que nous, tout ce qui est registre est renvoyé sur un sous-traitant. Si je cherche à être au conseil d'administration du CCNSO, eh bien, je passe par là. Alors, il y a des exceptions, bien sûr. Il y a toujours des exceptions, mais il existe cette opportunité. La même chose peut être dite sur la GNSO. Mais ce que nous cherchons à faire, c'est à faire des nominations plus indépendantes. Donc, nous essayons de trouver des personnes un petit peu plus différentes, avec une perspective un peu différente. Donc, moins intégrées dans la CAN. Et c'est pour cela que nous nous adressons à vous, parce que pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que vous venez chez ICANN. Donc, vous arrivez avec votre perspective fraîche, entre guillemets, avec une voix unique. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond de manière bien particulière. Cette année, nous avons 2 sièges au comité consultatif at large. Et j'imagine que vous vous rappelez tous de la présentation très intéressante d'Olivier Crépin-Leblond, qui est président de ce comité. J'en ai moi aussi été la présidente. Si vous vous souvenez, ALAC est divisé géographiquement en 5 espaces. Et il vous a sans doute expliqué que l'ALAC nomme 2 personnes de chaque RALO, de chaque région. Eh bien, le NOMCOM choisit la 3e personne de chaque région. Nous cherchons maintenant des gens d'Amérique du Nord et d'Europe. L'année prochaine, par contre, nous rechercherons des personnes venant des autres régions. Donc, encore une fois, une opportunité. Si vous avez le sentiment que vous avez les talents nécessaires, si vous souhaitez savoir ce que nous recherchons, eh bien, tout est sur notre site web, le voici d'ailleurs, à l'écran. Si vous pensez connaître une personne qui possède les talents, les compétences, l'expertise et peut-être même énormément de temps, parce que c'est ce qui est nécessaire pour ces rôles de leadership, c'est environ 20 heures par semaine, d'accord ? Donc, ce n'est pas négligeable. Ces rôles de leadership sont des rôles très important. C'est en fait un emploi à temps partiel non payé, d'accord, hein? Donc, mais le fait est que cela représente une opportunité de faire le bien, d'être impliqué dans l'élaboration des politiques. Et donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a énormément de choses à faire et d'opportunités en termes de changement, l'élaboration des politiques. C'est vraiment un peu comme une soupape. Si vous pensez être intéressé, si vous pensez connaître une personne qui peut être intéressée par ces opportunités, rendez-vous sur le site web et cliquez Je crois qu'il y a un bouton « Apply », donc faire une demande de candidature. On va essayer de trouver ce bouton, ce bouton à cliquer. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Sur le site web, vous avez une vidéo avec des stars exceptionnelles, je dois le dire. Moi-même, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais c'est exceptionnel. Donc, je suis donc dans cette vidéo, non seulement moi, mais vous avez aussi Yurio avec son expertise, vous avez Stéphane Van Gelder, qui malheureusement ne peut pas être présent avec nous ce matin, mais qui est en fait le président élect, donc qui s'occupe du comité de nomination. Donc, en tant que président élect du NAMCOM, nous avons un an de formation d'abord. Nous travaillons avec un expert externe. C'est vraiment un travail très sérieux, d'accord? Et nous sommes en train de travailler à la question de la transparence. Mais le président élect, bien sûr, est censé devenir président. Mais ce n'est pas une garantie. Mais étant donné que le président et le président élect sont élus, en fait, nommés, pardon, par le conseil d'administration ICANN, et Akersak vous a dit d'ailleurs qu'ils avaient quelqu'un au NAMCON. Donc, ce sont vraiment des gens qui sont élus par la communauté pour servir la communauté. Mais donc, le président a le choix d'avoir un président associé comme Yurio, par exemple. Alors, Janice, si tu peux passer à la diapositive suivante, pas celle-ci. Ce que je souhaite regarder, c'est un petit peu le calendrier. Je n'ai pas de laser, mais je vais utiliser ma canne à la place pour vous montrer. Donc, si vous regardez bien, je sais que c'est écrit petit, mais je vais quand même essayer de vous dire. Lorsque quelqu'un dit « Ok, j'aimerais essayer d'être sélectionné pour ce poste », donc vous sélectionnez ce que vous souhaitez faire, par exemple, ALAC ou conseil d'administration, GNSO. Vous sélectionnez vos préférences. Si ça ne vous intéresse absolument pas, il y a des explicatifs. Donc, vous avez ensuite votre consentement, votre autorisation, parce que bien sûr, il y a une question de confidentialité. Et donc, nous traitons ceci avec énormément de professionnalisme et de préoccupation pour la sécurité. Alors, il faut savoir que nous allons vérifier votre historique. Si vous avez publié des articles, si vous travaillez dans une université, par exemple, nous allons lire tous vos articles, d'accord? C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Donc, vous devez bien sûr donner votre consentement pour que nous puissions faire tout ceci. Nous avons des délais assez serrés cette année. Par le passé, il s'est produit à l'occasion que nos délais aient été repoussés. Mais cette année, on ne le fera pas. Donc, le dernier délai, ce sera le 1er avril de cette année. D'accord? Au 1er avril, toutes les personnes qui auront effectué ce processus, qui auront rempli ce formulaire que je viens de vous montrer, et puis bien sûr, il y a tout un processus ensuite qui se déroule, ces personnes seront prises en considération. Bien sûr, si vous donc effectuez le processus après, vous ne pourrez pas être pris en considération. Alors, Yuri, si vous pouvez, s'il vous plaît, passer au calendrier pour qu'on puisse parler un petit peu de ce qui se passe et quand. Parce qu'une des choses que nous cherchons à faire, c'est de rendre nos processus publics. Même si, bien sûr, pour ce qui est des candidats, tout est privé. Alors, John, j'aimerais que vous leviez, s'il vous plaît. John est membre du comité de nomination. Il se cache toujours, ceux qui viennent m'aider, en fait. Ils se mettent à l'arrière de la salle. Hans fait exactement la même chose depuis le début de la semaine. Alors, toutes les personnes qui, normalement, lors des réunions, portent une lanière rouge est membre du NOMCOM. Mais je crois que l'APRALO a également une lanière rouge, donc c'est un petit peu, ça prête à confusion. Donc lisez ce qui est écrit dessus, mais en principe, donc la lanière rouge, c'est le NOMCOM. Donc Yuri, moi-même, Janice, nous sommes tous au courant.
Ouais.
Yuri au micro. Oui, cette année, il y a eu ce que j'appellerais des similarités qui ont semé le doute. Mais si vous regardez avec soin, vous pourrez distinguer les membres du NOMCOM. Alors, au mois d'avril, dans certaines cultures, on le connaît comme la journée, le 1er avril, le poisson d'avril. Mais je peux vous assurer que ce que Cheryl a dit, à savoir la date butoir du 1er avril, c'est bien vrai. Aucune blague là-dessus. Donc, que se passe-t-il après cela? Le NOMCOM commence à lire les candidatures, les documents, informations envoyées, c'est-à-dire le CV, les candidats qui nous expliquent ce qu'ils pourraient apporter dans le cadre de ces fonctions, de ce poste. Donc, les membres ont à lire tout cela. Puis, au moment, c'est-à-dire 2 semaines, 3 semaines après cette date butoir, nous devons faire une évaluation, c'est-à-dire sur la base de cette évaluation, 15 candidats du conseil sont soumis à un autre examen par le SOB. Donc, on a des entretiens téléphoniques avec eux qui peuvent durer jusqu'à une heure et demie. Donc, c'est vraiment un entretien en profondeur. Et ensuite, on peut en savoir plus à propos de ces candidats. Dans la deuxième partie du mois d'avril, le NOMCOM examine les candidats pour le GNSO, CCNSO et la LAC. Au mois de mai, j'espère à la mi-mai, nous obtenons ces évaluations de la part de l'OB de ces 15 candidats et là, on passe à une deuxième sélection avec moins de 10 candidats retenus, peut-être moins de membres du conseil qui sont invités à venir à des entretiens individuels. Ces entretiens, tous les membres du comité y assistent. L'un de ces entretiens dure environ une heure. Et après cet entretien, et après la réunion, c'est-à-dire vendredi et samedi, le NOMCOM se réunit à huis clos dans un endroit secret pour délibérer jusqu'à ce que nous avons le nom des membres du conseil et de tous les autres. Et comme au Vatican, nous envoyons une fumée blanche pour dire « ça y est, nous avons trouvé les candidats ». Cheryl au micro. Oui, ça me fait rire, ça. Toute l'idée du Vatican, tout le monde qui nous regarde pour attendre le résultat de cela. Mais c'est vrai. Même si nous avons fait une sélection d'ici la fin de la réunion de Londres, le monde a les yeux rivés sur nous parce que il y a un certain nombre de vérifications très approfondies qui sont faites parce que les yeux du monde sont sur nous et donc on regarde avec beaucoup d'attention ce qui va se passer au sein de l'ICANN pendant les prochaines années. Donc il n'y a aucune marge d'erreur possible. Donc d'ici septembre, et croyez-moi, bien avant d'avoir quitté Londres, on saura qui sont ces candidats. Nos membres sont tenus de respecter le code de conduite qui est extrêmement strict. Ils ne peuvent pas vous parler et vous donner des informations qui font partie du domaine public ou vous expliquer un processus. Ils ne peuvent confirmer ou infirmer le fait qu'une personne soit candidate. Cet après-midi, au forum public, ils ne peuvent pas dire qui est candidat. Si vous venez me voir cet après-midi, Cheryl, je ne savais pas qu'un tel voulait se porter candidat. Je ne pourrais pas le confirmer ni l'infirmer. Donc, nous sommes tenus de respecter un code de confidentialité de manière très sérieuse. Parce que John est dans la salle, j'aimerais qu'il vienne me rejoindre dans cette mise en scène un petit peu, parce qu'il va être une autre source pour vous d'opportunités. Je sais à quel point, pour les boursiers, il est utile de s'engager et participer dans les différentes unités ou dans les différents services de la communauté. Soyez assurés que vos talents, vos opportunités, vos compétences et vos qualités seront prises en compte. John est membre du NOMCOM. Je vais lui donner la parole et vous pourrez, si vous voulez, lui poser des questions ensuite. John, au micro. L'une des premières choses que j'aimerais expliquer, c'est quelle est la composition du NOMCOM et à quoi sert-il exactement. Le NOMCOM est constitué de plusieurs individus, membres des SO, représentants de plusieurs unités constitutives. Et une fois qu'on se réunit et qu'on se met au travail, je peux vous l'assurer, cher, il en est témoin. Si l'un d'entre vous a déjà été à un entretien pour un travail, c'est l'une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour aider votre organisation, votre entreprise, etc. Et ça ressemble exactement à ça. Donc, on va commencer. Comme Cheryl l'a dit, par sélectionner un groupe de candidats extrêmement qualifiés, tout est confidentiel. On va envoyer les CV à plusieurs personnes pour qu'elles les regardent et nous allons tous regarder très attentivement les candidatures qui sont présentées. Nous avons des équipes qui ensuite signent ce qu'on appelle un deep dive, donc un examen très approfondi pour vérifier toutes les références, vérifier l'expérience des candidats, vérifier toutes les informations contenues dans le CV et la lettre de motivation. Donc ensuite, on a un entretien avec les candidats et nous avons des réunions, des conférences téléphoniques entre nous toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine. Et à la réunion de Londres, là encore, nous allons avoir des entretiens avec les gens, puis délibérer pour parvenir à une sélection finale, sachant qu'il y a des conditions qui existent et que tout le monde a des qualifications. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions. John, si vous restez avec nous, vous pouvez rester à mes côtés. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à me les poser ou à John. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, Atwate. J'ai une question par rapport à la manière dont vous choisissez les candidats en particulier. S'ils sont tous qualifiés ou ont des qualifications semblables, mais viennent de régions différentes, comment allez-vous choisir quelle est la personne la plus adaptée pour telle ou telle fonction ? Cheryl, au micro, je vais demander à John de revenir sur la manière par rapport à la région et à la diversité. Je crois que ça fait partie de votre question. Je vais y répondre. Il y a des limites. Avec l'ALAC, on ne peut que nommer des gens de l'Asie-Pacifique lorsqu'il c'est au tour de l'Asie-Pacifique de nommer quelqu'un. Ensuite, il y a des limites statutaire. Il ne peut y avoir plus de 5 représentants par région. Donc, lorsque l'on regarde la composition actuelle du Conseil, il ne s'agit pas simplement d'une diversité géographique, nous avons très souvent des qualifications semblables. Donc, il faut voir les sièges à pourvoir. Le Conseil, par exemple, veulent une personne qui soit compétente sur l'évaluation des risques, de même pour les CCNSO. Si on nous demande, par exemple, une personne qui soit compétente dans le domaine juridique, à ce moment-là, on recherche ce type de compétences. John, au micro. Oui, Cheryl, tu as très bien expliqué les choses, mais je dirais que si vous voulez avoir une idée très claire, les conditions géographiques particulières, sur les conditions particulières, n'hésitez pas à aller sur le site web. Là, vous allez trouver les statuts qui stipulent bien les critères avec les 5 différentes régions et le nombre de sièges par région. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais c'est un conseil extrêmement représentatif. Donc, cette diversité géographique, bien entendu, est là. Cheryl, au micro. Je vais revenir sur la question concernant la diversité. La géographie n'est pas la seule diversité que l'on recherche. Les compétences également sont prises en considération. Alors, il faut également se pencher sur le genre. Et voilà toutes les diversités que l'on prend en considération. Mais on ne peut nommer sur l'ensemble des gens qui... Donc, on choisit parmi les candidatures proposées. S'il n'y a que des candidatures provenant de l'Europe, il va falloir qu'on choisisse parmi ces candidatures-là. Donc, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Vous avez une autre question ? Bonjour. Je m'appelle Aroa de Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai bien reconnu votre accent. J'ai une question. Sur le NOMCOM, chérie, le micro, oui, je vais y répondre avec beaucoup de plaisir. Non, en fait, on n'a rien à voir avec ça par rapport au 15, au siège 15. Le siège 15, c'est le siège qui est désigné comme le seul membre avec droit de vote de la communauté at large. Donc, c'est l'ALAC et la communauté at large qui ont la responsabilité de désigner le siège 15. Lors de cette réunion, ils ont finalisé ce processus et une annonce a récemment été faite. en disant qu'il y aura une nouvelle personne qui va occuper ce siège 15 à la fin de la réunion de Los Angeles. Donc, toute personne ayant travaillé dans le domaine des IDN ou qui s'intéresse au script connaîtront certainement Madame Abrahim, qui a déjà travaillé au NOMCOM pour la LAC. Donc, il y a plusieurs années, elle a été nommée à la LAC et la communauté a senti qu'elle avait les compétences nécessaires pour occuper ce siège 15 parce qu'elle a été annoncée comme étant la candidate retenue. Elle est malaisienne et elle va donc représenter la région Asie-Pacifique. Y a-t-il une autre question à l'avant? Oui. Bonjour. Je m'appelle Sean du Nigeria. J'ai regardé le site web et je vois la composition du NOMCOM et je vois qu'il y a des différences entre les parties prenantes. Par exemple, la LAC en a 5, le GNSO 7 et les autres un chacun. Qu'en est-il des chiffres? Pourquoi est-ce que le GNSO en a 7 sièges? Cheryl au micro. Oui, j'aurais dû en parler. En fait, ça a une raison historique tout cela. À l'époque où le modèle actuel a été développé, les gens qui l'ont développé, regardez ce qui est passé du côté du groupe des parties prenantes qui était actif dans la partie composante de l'ICANN. À cette époque, la LAC avait 5 régions. Elle en a toujours 5 d'ailleurs. C'est la raison d'être des 5 sièges. À l'époque, le GNSO en avait 7. Maintenant, il en a 8. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on en parle. On parle des statuts parce qu'on est limité par les statuts. Les statuts stipulent le nombre de sièges pour le GNSO. Et donc maintenant, nous avons une autre partie prenante du GNSO qui ne sont pas représentées au NOMCOM. Il y a un nouveau groupe de travail de révision sur la composition qui se penche sur les changements potentiels de tout cela. Yuri, est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Yuri au micro. Oui. La question de savoir quel groupe siège au NOMCOM, tout ça c'est dans les statuts. Et ça n'est pas le Conseil qui prend une décision là-dessus. Et la situation de ce groupe particulier de parties prenantes ne cesse d'évoluer. Il y aura probablement des changements. Et c'est un petit peu problématique, d'après moi, que le nombre de ces groupes ne cesse d'augmenter. Et si on continue à ajouter des membres au NOMCOM, ça va devenir problématique parce qu'à un moment donné, ce groupe sera trop grand. Il y a déjà trop de monde, 16 membres qui ont droit de vote. Merci, Cheryl, au micro. John, tu veux ajouter quelque chose? John, au micro. Oui, j'ajouterais que en fait, lorsqu'on regarde les différentes unités constitutives et la composition du NOMCOM, on essaie de ne pas en prendre en considération cela. Lorsque vous êtes nommé au NOMCOM, on essaie de sélectionner les meilleurs candidats. Il n'y a pas de conflit ou de tension politique. Cheryl, au micro, oui, c'est un petit peu exagéré tout cela. J'aimerais espérer ou je souhaite qu'au moins deux d'entre vous vont un jour ou l'autre siéger au NOMCOM, que cinq d'entre vous vont se porter candidat. J'aimerais vous remercier de votre temps. Si vous avez encore des questions à nous poser, comme Janice l'a dit, elle va nous les transmettre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.
Janice au micro, merci beaucoup Yuri, Cheryl et John. Et Christina arrive. On est un peu comme dans une émission télévisée. Hein. Alors, Christina, tu as besoin de l'IPC?
Good morning, everyone. Thank you very much.
Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me donner cette opportunité de vous parler de l'unité constitutive des représentants de la propriété intellectuelle. Notre unité fait partie de l'organisation de soutien au nom de domaine. Et vous savez peut-être que la GNSO est divisée en deux chambres. Donc, la chambre des parties contractuelles et des parties non contractuelles. Je crois qu'on vous a déjà expliqué comment cela fonctionne. Nous faisons partie de la chambre non contractuelle qui est divisée elle-même en deux groupes. Donc, le groupe des utilisateurs commerciaux et des non commerciaux. Nous sommes une unité constitutive de ce groupe des partie prenante non commerciale. Donc, cette structure est relativement lâche, qui a principalement un but de communication. Tout ce qui est élaboration de politique est effectué au niveau de l'unité constitutive. Donc, nous prenons des décisions de manière indépendante. Le but de l'IPC, vous le savez sans doute, vous vous en doutez, c'est donc d'assurer la protection des droits de propriété intellectuelle des utilisateurs. Et dans le cadre de ces questions, nous fournissons des informations qui sont donc nécessaires pour s'assurer que ces facteurs soient bien pris en considération. Nous avons environ 95 membres, mais cela peut prêter à confusion parce que sur ces 95, il y en a 15 qui sont des organisations internationales qui eux-mêmes ont des membres. Nous faisons partie de l'Organisation des marques de commerce qui elle-même a plusieurs membres. Donc, il y a des centaines de membres en plus. Donc, pour ce qui est du nombre total de membres, donc c'est 95 officiellement. Mais maintenant, le nombre d'organisations qui sont représentées, en fait, est plutôt de 20 000 20 000 qui sont représentés. Pour ce qui est des membres, il y a trois catégories principales. Premièrement, la propriété intellectuelle au niveau international. Deuxièmement, la propriété intellectuelle au niveau international et régional. Et troisièmement, les utilisateurs privés. Donc, par exemple, moi, je suis membre privé. Nous avons un certain nombre de membres qui sont des sociétés. Du point de vue pratique, je dirais qu'il y a à peu près la moitié des 90-95 qui sont des membres du secteur privé. Donc, nous sommes prêts à accueillir toute autre participation. Si vous faites partie de régions où les droits de la propriété intellectuelle ne sont pas bien défendus, eh bien, nous serions ravis d'avoir l'occasion de travailler avec vous, avec vos collègues. Notre adhésion est relativement informelle. Il faut simplement être prêt à s'engager en termes de protection des droits de la propriété intellectuelle. Il faut que vous soyez impliqué dans ce domaine, que vous ayez une contribution à apporter, que ce soit par vous-même ou par le biais de vos membres. Ce que cela veut dire dans la pratique, c'est que dans le cadre de nos statuts actuels, et nous sommes d'ailleurs en train de les amender, tant que vous ne représentez pas un gouvernement ou une agence gouvernementale, tant que vous n'êtes pas étudiant, eh bien, vous devriez vous qualifier pour être membre. Le changement que nous allons apporter, c'est que dans le cadre de nos nouveaux statuts, nous allons créer une catégorie observateur pour permettre aux représentants de gouvernement et aux étudiants de nous observer. Il nous semble que la participation des gouvernements est très bien existe dans le GAC, donc il n'est pas la peine de créer un autre forum. Pour l'instant, donc nous souhaitons créer ce rôle d'observation pour les gouvernements et les agences gouvernementales. Nos membres sont très impliqués dans le cadre de la structure du groupe de travail. Nous participons en général à 80 voire 90% des groupes de travail qui existent au sein d'ICANN. Il y a certaines des questions que nous avons gérées. Par exemple, dans le cadre des nouveaux GTLD, nous nous sommes réellement occupés de la question des mécanismes de protection des droits intellectuels, de propriété intellectuelle, non seulement au niveau des politiques, mais aussi au niveau de la mise en application des droits. Il y a un certain nombre de nos membres qui s'occupent du contenu. Il y a un certain nombre de membres qui s'occupent des brevets, qui travaillent dans le domaine des brevets. Mais il est clair qu'ICANN ne s'occupe pas très fréquemment de la question des brevets. Donc, en général, nous représentons les marques. Alors, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je voulais en fait consacrer davantage de temps aux questions. Donc, si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Valentina de Roumanie, je voulais poser la question suivante. Donnez-vous des conseils sur .amazon, .white et .champagne. Non, nous n'avons pas fait de recommandations dans ce domaine. Et la raison, c'est qu'il y a une décision de la part de certains de nos membres, surtout dans les associations sur les marques de commerce, qui ont fourni des commentaires là-dessus. En plus, je représente Patagonia Inc. Donc, bien sûr, en tant que représentante de ce groupe, j'ai parlé de cette question, mais ceci, nous l'avons laissé à nos membres. Nous avons laissé cette responsabilité, en fait, à nos membres. Bonjour, je m'appelle Raoul Chaman. Ma question, dans le groupe des représentants commerciaux et des différentes unités constitutives, y a-t-il des frais? Et s'il y a des frais, cela veut dire qu'il y a donc bien sûr des intérêts. Alors, quelle est la différence? Quels sont les avantages de s'associer avec le groupe de parties prenantes? Et, alors, Réponse. Nos frais sont de 100 dollars par an. Cela peut changer quelque peu, mais je sais qu'il y a d'autres unités constitutives, d'autres groupes qui ont des frais beaucoup plus élevés. Mais nous avons fait tout notre possible pour qu'il reste bas, ces frais. En termes de différence, je crois qu'il y a deux choses à prendre en considération. Premièrement, les critères d'admission pour lesquels êtes-vous éligible. Donc ça, c'est la première étape à prendre, à envisager. Êtes-vous éligible pour tel ou tel groupe? Parce que si vous ne l'êtes pas, eh bien, la décision est déjà prise. Et l'étape suivante, c'est vos intérêts spécifiques. Nous avons des membres qui font également partie de l'unité constitutive commerciale. Nous avons des membres qui font partie du groupe des bureaux d'enregistrement. Nous avons des membres qui font partie de l'unité des registres, des opérateurs. Et nous avons également des membres qui font partie du groupe des marques de commerce. Donc, une des choses que nous avons faites, d'ailleurs, cela représentait un défi pour nous dans le cadre du programme pour les nouveaux GTLD, c'est donc la question de notre structure. Nos membres représentent parfois des demandeurs ou points marques. Donc, il faut que les intérêts soient bien établis, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Et je crois que nous avons bien pris cette question en charge. Maintenant, si vous êtes éligible pour l'unité constitutive de la propriété intellectuelle, eh bien, cela dépend des souhaits que vous avez en termes d'implication, ce que vous cherchez à faire. Je sais en tout cas que nos frais sont inférieurs à ceux du BC, mais ce que je sais, c'est qu'au sein de l'IPC, en termes d'adhésion et de vote, d'ailleurs le vote ne s'applique qu'aux élections, eh bien ces votes sont pondérés. Donc par exemple, les organisations internationales ont 3 voix, les organisations nationales ont 2 voix, et puis tout ce qui est donc secteur privé, vous avez donc 1 voix. Donc, cela dépend de l'importance pour vous. Pour certains membres, il est extrêmement important qu'ils aient le même poids en termes de voix que les autres. À ce moment-là, le BC est peut-être plus approprié. Nous, bien sûr, nous concentrons sur la représentation de la propriété intellectuelle. Donc, c'est ceci qu'il faut prendre en considération. Janice, au micro. Effectivement, il est tout à fait possible de faire partie de différentes organisations dans ICANN. Et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Comme l'a dit Christina, je crois qu'il n'y a pas de question. Simplement, il faut savoir si vous êtes éligible ou pas pour faire partie d'une unité constitutive ou d'un groupe de parties prenantes. Et donc, vous pouvez en fait faire entendre votre voix à différents niveaux. Oui, dit Christine au micro. Le seul problème éventuel, c'est que vous n'avez le droit de voter qu'une seule fois, que dans un seul groupe. Donc, si vous décidez de faire partie du BC, donc si je prends l'exemple, il y a des membres qui font partie du BC et de l'IPC, mais ils n'ont le droit de voter que dans le cadre d'un seul groupe. Donc, ils doivent choisir. Pour ce qui est de nos membres points marques, au fur et à mesure qu'ils deviennent registres, ils vont sans doute décider, bon, mes intérêts ont changé, ma relation avec ICANN a changé, donc il est mieux pour moi de voter autrement. Alors, Tina, les observateurs devront-ils également payer 100 dollars pour faire partie de l'unité constitutive? Réponse de Christina au micro. Pour l'instant, le statut n'est pas officiel, donc le statut d'observateur n'existe pas réellement de manière officielle. Donc, ce que cela veut dire, c'est que vous pouvez participer à nos réunions lors des réunions ICANN et nous nous retrouvons tous les mois. Donc, lorsque nous ne nous retrouvons pas au sein d'une réunion ICANN, notre réunion est téléphonique. Donc, cela veut dire que nous avons des mises à jour d'ICANN, etc., pour tout ce qui est résolution des litiges. Alors, les choses étant ce qu'elles sont, Le statut n'étant pas encore officiel, il n'y a pas de frais associés au statut d'observation. Janice au micro. Alors, Christina, comment est-ce qu'on peut faire une demande de poste d'observation? Christina au micro. Vous allez aller sur notre site web et il y a un lien qui nous permet, qui vous permet de faire une demande d'adhésion. Et donc, dans le formulaire, vous allez indiquer que vous souhaitez être observateur. Étant donné le processus de demande de participation, il y a un comité qui va revoir votre demande. Il y a ensuite une recommandation qui est renvoyée au conseil. Donc, il faut à peu près 4 à 6 semaines pour que votre demande soit approuvée. Et je crois que, en tout cas pour ce que j'en sais, 95% des demandes sont approuvées. Janice au micro. Donc, il y a encore une question. Il y a encore le temps pour une cette question. Alors, Andreas, je viens du Swaziland. Quelle est votre objection? Elle semble être relativement forte par rapport à la participation des représentants gouvernementaux. Vous avez des membres qui souhaiteraient participer, qui ne sont pas membres du GAC. Réponse de Christine. Cela revient à la structure du GNSO et du GAC. Ce n'est pas quelque chose qui nous appartient. La structure a été définie de cette manière par ICANN. Nous sommes l'unité constitutive et c'est en fait pour cela que les choses sont ce qu'elles sont. Il y a plusieurs années, nous avons cherché à autoriser des employés ou des représentants gouvernementaux à participer de manière individuelle, mais cela représentait un réel enjeu pour ces personnes en termes d'identification des intérêts. Est-ce qu'ils participaient en tant qu'individu ou est-ce qu'ils parlaient au nom de leur gouvernement? Et honnêtement, il était beaucoup plus facile d'une manière générale de mettre les choses au point. Et je crois qu'en fait, les choses sont les mêmes partout. Je crois, il me semble, que d'une manière générale, on exclut les représentants gouvernementaux de ce genre de groupe. Janice au micro. Merci beaucoup. J'ai l'impression de vous repousser, de vous faire sortir, forcer à sortir de la salle. Mais s'il y a d'autres questions, je vous les ferai parvenir. Christine au micro, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de vous parler. J'espère que vous avez bien profité de cette réunion. Et n'hésitez surtout pas à venir au forum public, parce qu'à mon avis, c'est vraiment le moment crucial, le moment le plus important de notre réunion. Merci. Janice au micro. Nous allons maintenant passer à la salle Hallett. Donc, on va se donner 10 minutes pour faire la transition, pour prendre un petit peu de café. On se retrouve donc dans la salle Hallett. Et j'ai besoin que quelqu'un m'aide à porter ma boîte. D'accord? Merci.